Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, quand l'école à la maison a du bon.
Reportage dès le début de ce journal avec ces parents qui refusent de remettre leurs enfants à l'école. Dans l'actualité également, ce mauvais feuilleton aux airs de rediffusion, Roman Polanski reconduit au sein de l'Académie des Césars, une nomination qui fait du bruit. Et puis des spécialistes en lecture labiale, convoqués ce soir en commission discipline de la Ligue de football. Leur mission, tenter de décrypter les insultes qui auraient fusé dimanche entre Neymar et Alvaro González de l'OM.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
L'école à la maison, il y a des parents qui en redemandent. Certains enfants ne sont pas rentrés il y a 2 semaines et ils n'ont même pas remis les pieds en classe depuis le 16 mars. Il y a bien sûr la crainte de l'épidémie, mais aussi l'expérience du confinement qui a séduit. Reportage à Provins, dans le nord, de Franck Hanson.
Premiers apprentissages de lecture pour Isaac, seul avec sa maman, Élodie Delser. Cette trentenaire éducatrice de formation a été convaincue par l'expérience du confinement et son fils n'est pas retourné à l'école du village.
Voyant que ça marchait bien, je me suis dit pourquoi pas continuer. En fait, ça sert à quoi d'aller le remettre alors qu'il a son rythme à la maison, il fait un peu comme il a envie. Moi, j'ai les capacités de le faire. Mon mari suit aussi. Si jamais ça marche pas, on a la possibilité de retourner aussi dans le système scolaire classique ou hors contrat. On est dans un apprentissage par les sens, par le concret. On va pas juste apprendre la comptine numérique jusqu'à 10 sans que l'enfant sache ce qu'il y a derrière. La lecture, je passe par des images. On a d'abord beaucoup travaillé les sons des lettres. Normalement, je suis capable de suivre jusqu'à fin de primaire, début de collège.
La maman s'est formée et suit la pédagogie Montessori. Elle a mis entre parenthèses son travail, mais assure quelques ateliers dans une association locale. Sa préoccupation, respecter le rythme de l'enfant.
Moi, j'essaie d'imposer le créneau de travail le matin. Si je vois que c'est trop dur, qu'il est fatigué, c'est tout, on arrête et puis on reprend à un autre moment.
J'aime bien faire le travail ici.
Et pour voir d'autres enfants, il y a les sorties qui ne manquent pas pour Isaac et les activités culturelles ou sportives.
Un reportage de Franck Hanson. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Alors deux questions pour vous. Quelles sont les démarches à suivre pour faire cours à la maison? Est-ce qu'on sait combien d'enfants sont concernés aujourd'hui?
Alors il faut déclarer auprès de la mairie de votre commune et auprès de l'inspection académique de votre département que vous souhaitez assurer l'instruction de vos enfants à domicile. Il y aura des contrôles pour s'assurer que les élèves à la maison progressent bien, qu'ils acquièrent les connaissances et les compétences prévues par l'éducation nationale. Ces dernières années, ça concernait environ 25 000 enfants. Pour cette rentrée, pas encore de chiffres. Le CNED, le spécialiste de l'enseignement à distance, ne fait les comptes, par exemple, des nouvelles inscriptions que fin septembre, début octobre.
Merci pour ces précisions, Marie Guerrier. Tiens, puisqu'on parle d'école à la maison, d'école tout court d'ailleurs, notons ce pataquès en Grèce après la distribution gratuite de centaines de milliers de masques à tous les élèves. On s'est aperçu qu'ils n'étaient pas à la bonne taille, les mensurations étaient erronées, ils couvrent quasiment la totalité du visage, ce masque. C'est devenu une blague sur les réseaux sociaux, on les appelle les masques parachutes. Ce sera corrigé, a promis le vice-ministre de la Santé.
On compte sur lui. 8h02, nouvelle polémique dans le milieu du cinéma français.
Avec cette nomination qui fait du bruit, on le disait, celle de Roman Polanski, reconduit au sein de la prestigieuse Académie des Césars. Rappelons que le réalisateur franco-polonais, condamné aux États-Unis pour violence sexuelle sur mineurs, avait été exclu cette année de l'Académie des Oscars. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Bon, visiblement, la France n'est pas l'Amérique.
Oui, le feuilleton continue et ce nouvel épisode a des airs de rediffusion. 7 mois après son sacre mouvementé comme meilleur réalisateur, Roman Polanski continue de semer le trouble au sein des Césars. Les 182 représentants de la nouvelle assemblée de l'Académie viennent d'être élus par les 4313 membres votants. Mais surprise, une vingtaine de personnalités historiques, donc qui sont là depuis le début, ont été réélus d'office à leur demande. Alain Terzian, le président sortant, en fait partie, tout comme donc le réalisateur de J'accuse, tous deux pourtant à l'origine de l'implosion en plein vol des Césars l'hiver dernier. Rien d'illégal à cela, les statuts le permettent, mais certains nouveaux élus comme Andrea Bescon et Éric Métayer hurlent à la trahison de l'idée même de refondation de l'Académie. Et puis c'est pas fini, puisque le 29 septembre prochain sera désigné le nouveau conseil d'administration des Césars, avec désormais à sa tête, pour un mandat de 2 ans renouvelable, un tandem paritaire homme-femme.
Très compliqué tout cela. Merci beaucoup Stéphane Boutsock.
C'est pas du cinéma, c'est une série.
Exactement, une saga.
Une grande saga. Après la pause, le port de Calais ne veut plus payer les contrôles migratoires. Son président passe à l'offensive.
Aujourd'hui, les conditions ne sont plus les mêmes. Nous voulons bien continuer à faire ces contrôles, mais il faut nous les payer.
La suite du journal dans un instant.
RTL Matin. RTL Matin.
8h06, la suite du journal de Jérôme Florin avec ce chiffre à présent, 8 millions d'euros par an.
C'est ce que coûtent chaque année au port de Calais les contrôles migratoires. C'est comme ça depuis 2004, depuis les accords du Touquet, mais à l'époque, la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union Européenne. Avec le Brexit, plus question d'avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, les Britanniques doivent payer. C'est ce que dit le président du port de Calais, Jean-Marc Puisseau.
Aujourd'hui, les conditions ne sont plus les mêmes que lorsque le traité du Touquet a été signé, à savoir que l'Angleterre quitte l'Union européenne définitivement. Donc je ne vois pas pourquoi nous continuerions à vérifier, à avoir ces dépenses. Néanmoins, nous voulons bien continuer à faire ces contrôles, mais il faut nous les payer. Il faut absolument nous dédommager des 8 millions d'euros que nous coûte chaque année le contrôle de ces migrants à bord de camions. On l'a fait à la demande de l'Angleterre, il me semblerait tout à fait normal, puisque l'Angleterre quitte l'Europe, qui nous indemnise. Au total, ce sont 200 personnes qui contrôlent les camions. Ça nous coûte trop cher.
Et si les Anglais ne veulent pas payer?
Ça, on avisera. On peut remettre la frontière en Angleterre. Ça leur posera énormément de problèmes. Nous voulons bien continuer à faire les contrôles chez nous, mais rémunérés.
Le président du port de Calais, Jean-Marc Puisseau.
Le Paris Saint-Germain aura les pieds à Metz et la tête à Paris ce soir.
À Metz pour son troisième match depuis sa reprise en Ligue 1. Et à Paris, pourquoi? Eh bien parce qu'au même moment, la commission de discipline de la Ligue de football se penchera sur les incidents de dimanche soir lors de la rencontre avec l'OM. Il pourrait y avoir des sanctions, hein, Philippe Sanfourche.
Oui, les 5 expulsés de PSG-OM qui ne devraient d'ailleurs pas tous connaître la durée de leur suspension ce soir, car une ou plusieurs instructions seront à coup sûr ouvertes par la commission, à commencer par l'altercation Neymar-Alvaro González. Le Brésilien, auteur d'un coup porté au défenseur espagnol, accuse ce dernier d'avoir proféré des injures racistes, ce que les images fournies à la Ligue par le diffuseur Téléfoot ne démontrent pas formellement. Le PSG a fait appel à des spécialistes en lecture labiale et va également présenter d'autres images recueillies auprès de beIN Sport MENA, diffuseur au Moyen-Orient. Sans garantie pour autant d'apporter une aide nouvelle aux Brésiliens qui pourraient écoper de 7 matchs de suspension pour avoir fait le coup de poing, comme Lévin Kurzawa et Jordan Amavi côté marseillais. Angel Di Maria, lui, coupable d'avoir craché en direction d'Alvaro González, risque jusqu'à 6 matchs. Le vestiaire parisien, déjà bien clairsemé suite aux nombreux cas de Covid, n'est pas prêt d'être au complet pour démarrer enfin la saison sereinement.
Merci Philippe Sanfourche. Et concernant l'incident entre Neymar et le défenseur Alvaro González, Noël Le Graët, le patron de la Fédération Française de Football, tempère. Le racisme dans le foot n'existe pas ou peu, dit-il. Autre ambiance sur le Tour de France, au lendemain de la victoire de l'Allemand Lennart Kemna à Villard-de-Lans, place à la 17e étape, aujourd'hui sans doute l'une des plus difficiles avec le col de la Loze sur les hauteurs de Méribel à plus de 2300 mètres d'altitude.
RTL Tour de France 2020. Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Laurent Jalabert avec vous, Christophe Pacaud.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
On avait beaucoup d'interrogations sur la forme des principaux favoris avant ce départ du Tour. Et on s'aperçoit que ceux qui étaient en forme cet été le sont encore aujourd'hui, Laurent Jalabert.
Alors si on remarque que les coureurs en tête du classement général dans les 10 premiers sont les coureurs que l'on attendait, eh bien il y a quand même quelques absents, puisqu'on a perdu en cours de route Nairo Quintana qui espérait un podium et Egan Bernal, le vainqueur sortant, pas à la hauteur de ses ambitions. Il faut dire peut-être que cette année, il y a davantage de surprises que sur des éditions précédentes. La préparation, on l'avait dit, elle était forcément pas la même pour tous. Certains pays ont été confinés, d'autres moins longtemps ou pas du tout. Pour le coup, on s'attendait à ce qu'en dernière semaine du Tour, eh bien, on ait quelques mauvaises surprises du côté de certains des favoris. Hélas, pour nous, côté français, on déplore la méforme, on va dire, de garçons comme Thibaut Pinot qui ont peut-être été marqués justement par cette préparation perturbée.
On n'oublie pas les chutes non plus, Laurent Jalabert.
Évidemment, à tout cela, on rajoute les incidents de parcours, les chutes nombreuses intervenues, notamment la première semaine, qui laissent des traces forcément et qui jour après jour t'empêchent de récupérer correctement. Sur le Tour de France, c'est terrible, mais il n'y a pas tellement de place pour les blessés ou les malades.
On se retrouve pour l'étape du jour tout à l'heure à 10h, Laurent Jalabert.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, messieurs.
L'histoire du jour.
L'aventure a tourné court pour 2 faux policiers dans le Val-de-Marne, à Maison-Alfort, à bord d'un véhicule qu'ils avaient équipé d'un gyrophare. Ils arrêtaient des automobilistes en leur demandant leurs papiers et ils sont tombés, là c'est le drame, sur un vrai policier qui était en civil. Le fonctionnaire était en repos mais il n'a pas été dupe. Les 2 imposteurs ont pris la fuite avant d'être retrouvés et placés en garde à vue pour de vrai.
Et bien voilà, c'était le journal de...